Our very first guest on the podcast was Dr. Karen DeRosier, who graciously responded to our email asking her to come on the show to share her expertise. We did that first interview in English. I finally worked up the courage to do an interview in French, and we're delighted to bring you Dr. Karen's expertise and passion for women's health en français. Le Dr. Karen DeRosier est une obstétricienne, gynécologue et médecin certifiée en ménopause par The Menopause Society. Elle travaille au sein du réseau de santé Horizon au Nouveau-Brunswick depuis 2004 et depuis 2020 à la clinique Reconnect Health Center de Moncton, une clinique spécialisée en santé de la femme. Dr. DeRosier a développé un intérêt en pathologie vulvo-vaginale ainsi qu'en ménopause et elle est la représentante atlantique sur le conseil d'administration de la Société de ménopause canadienne. Nous sommes ravis de l'avoir de nouveau parmi nous pour démystifier la phase souvent mal comprise de la périménopause. Dr. Karen, merci d'accepter encore notre invitation.
Ça fait plaisir.
On s'est rendu compte juste ce matin, vous étiez d'ailleurs notre premier invité sur notre podcast.
Ah, ok, ça se peut. Ouais, ça
fait oui, ça fait un moment qu'on s'est parlé. Et je me souviens, on vous avait contacté parce que vous étiez mentionné à l'époque dans le média et vous avez répondu immédiatement. Et ça nous a vraiment marqué que vous étiez si amenable de venir et de parler avec nous. Alors, merci beaucoup.
Ah,
c'est très gentil. Et on est très contents de pouvoir reparler avec vous et oser de le faire en français.
Oui, ça, c'est bien. Moi, ce n'est pas un problème.
Ben, voilà, je voulais le faire parce que c'est votre langue maternelle, évidemment. Mais aussi, j'essaie de faire un petit effort pour me pousser hors de mon zone de confort.
Ben, vous parlez bien en français, c'est bien.
Merci, je n'ai pas souvent l'occasion, disons. Ouais. Alors, c'est un peu énervant, mais bon. Vous pouvez pardonner mon français, mes erreurs de grammaire
ouais.
et les
moi, il risque d'avoir
de
des
liaisons, ça va aller.
Ouais. Ben, moi, il risque d'avoir certains mots en anglais parce que je travaille beaucoup plus en anglais.
Ben,
donc
c'est
des fois,
c'est assez difficile de. Même quand c'est la langue maternelle et quand on travaille. Oui, oui. Non, c'est
moi,
pas.
Moi, je suis ici au Nouveau-Brunswick, ça fait 20, 21 ans maintenant. Donc, souvent, il y a de l'anglais qui se mélange à mon français.
Oui, tout à fait. Je comprends. Bon, ben, on va commencer alors.
Parfait.
Docteur Karen, d'après votre expérience et votre expertise, quels sont les symptômes de la périménopause les plus mal compris?
Bien, je vous dirais, la plupart du temps, quand les patientes viennent, ils vont me parler automatiquement des bouffées de chaleur. Mm. Mais c'est beaucoup plus que ça, la périménopause. Et ça dépend un peu de la période de périménopause où vous êtes. Parce que si on est dans la période plus précoce, qui est définie par des menstruations, qui ont des cycles de plus de 6 jours de différence, qui arrivent deux fois dans les 10 derniers mois, bien, les patientes, à ce moment-là, ont souvent plus de symptômes prémenstruels significatifs parce qu'il y a des grandes, grandes variations hormonales. Mm-hmm. Et il y a des périodes où les patientes peuvent avoir deux ovulations pratiquement une après l'autre. Mm-hmm. Et les hormones n'ont pas le temps de redescendre à la normale avant de remonter. Donc, c'est pour ça que les taux hormonaux sont élevés. Et les patientes peuvent à ce moment-là avoir des symptômes plus de migraines, de ballonnements, de sensibilité au sein. Et aussi avec les fluctuations, parce que certains mois, les ovaires répondent moins bien, les hormones sont plus basses, ça crée souvent des problèmes d'humeur et des problèmes aussi de sommeil, des problèmes pas d'agressivité, mais les patientes me disent souvent « feel angry », ils se sentent comme irritable, je dirais, irritable. Donc, c'est souvent plus la période précoce. Ils peuvent commencer à avoir des symptômes de bouffée de chaleur, mais souvent, ils se rendent pas compte que tous ces autres symptômes-là, c'est lié à la périménopause.
Oui,
puis en période tardive, à ce moment-là, il y a des périodes plus longues ou prolongées sans menstruation et donc avec des baisses d'hormones plus prolongées. Ben là, souvent, les symptômes prémenstruels vont être mieux parce qu'il y a moins de fluctuations.
Oui.
Ils vont présenter plus de symptômes ménopausiques, que ce soit le brouillard cérébral, encore les bouffées de chaleur peuvent augmenter, les douleurs musculosquelettiques, les troubles d'humeur, les troubles de sommeil vont se présenter à ce moment-là. Fait que ça dépend un peu de la période, puis c'est important de faire la différence parce que pour nous, les traitements sont différents aussi si on parle des deux périodes.
Oui, et aussi quand c'est précoce, je sais pour moi et Michel, pareillement, on avait des symptômes, mais il n'y avait pas, en réflexion, il y avait des petits changements dans nos cycles menstruels, mais pas énormes. Alors là, on ne savait pas ce qui se passait.
Ouais.
Et on était plutôt jeunes par rapport à ce qu'on on connaissait à l'époque. Et là, c'était un manque de sommeil. On était réveillés à 2h le mat et on ne pouvait pas se rendormir. Et c'était l'horreur.
C'est souvent ça, les troubles de sommeil en périménopause et ménopause, c'est souvent les patientes vont s'endormir, mais se réveillent tôt et constamment, puis ont de la misère à trouver sommeil. Mais c'est, on commence à comprendre un petit peu plus les symptômes, les troubles du sommeil. C'est un peu lié dans la même région au niveau du cerveau, dans l'hypothalamus, que les bouffées de chaleur. C'est un type de trouble de sommeil qui est différent que l'insomnie des autres. Je dirais des autres périodes de la vie
et qui
c'est pas la même cause non plus. Donc, c'est pourquoi souvent les médicaments utilisés habituellement pour les problèmes de sommeil ne fonctionnent pas aussi bien dans cette période-là.
Justement, c'était parce que c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une période d'insomnie et j'ai pris des médicaments pendant un petit moment et ça s'est tout redressé, c'était très bien. Mais là, ce qui fonctionnait avant, ça n'avait aucun effet. Et j'étais vraiment perdue. Et à l'époque, les docteurs que j'avais ne savaient pas ce qui se passait. C'était vraiment très frustrant et très... j'avais même peur parce que je ne savais pas ce qui se passait et personne ne pouvait m'aider. Et c'était vraiment, vraiment difficile.
Il y a beaucoup d'études. Il y a des médicaments qui vont venir éventuellement. Il y a certains médicaments qui sont sortis dans cette année, qui ont été acceptés aussi, qui s'en viennent, qui vont être qui travaillent un peu sur cette région-là, là, qui sont sortis pour des bouffées de chaleur, mais qui vont avoir un effet aussi sur le sommeil dans cette région. Fait que ça s'en vient. Puis la définition de la périménopause va changer aussi là. Dans les derniers congrès, c'est discuté que c'est pas on se fie beaucoup à le cycle, c'est le cycle menstruel varié plus que 6 jours ou moins. Mais maintenant, on commence à se rendre compte que c'est peut-être pas juste la longueur du cycle, mais aussi peut-être à partir du moment où les patientes ont des fois des saignements plus abondants sans qu'il y ait vraiment une différence dans le cycle. Oui. Donc ça risque de la définition en tant que les stades de Straw qu'ils appellent, ils vont probablement s'ajuster un petit peu, ce qui fait en sorte que ça va peut-être être plus facile de voir cette période-là. Parce que c'est vraiment pas malheureusement lié à des prises de sang. Parce que les prises de sang fluctuent tellement qu'on ne peut pas rien dire. Fait que ils vont augmenter, comme il disait, même il y en a qui disaient que la patiente dise je me sens pas comme moi-même, il y a quelque chose qui a changé, que parfois ça peut être s'il n'y a pas d'autre chose pour l'expliquer, je veux dire, ça peut être suffisant un peu pratiquement pour dire que c'est la périménopause.
Oui, justement. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un site qui s'appelle Women Living Better.
Je l'ai vu, mais je ne peux pas dire que je l'ai regardé énormément. Là.
Oui, mais c'est je pense que, j'ai oublié, Nina Kosloff, je pense que c'est le nom de celle qui l'a fondée avec quelqu'un d'autre. Et bon, ils ont fait justement des recherches qui ont été reconnues par The Menopause Society. Mm-hmm. Et c'était justement ça, cette notion de, je pense que je suis trop jeune. Il n'y a pas vraiment de grands changements, mais je ne sens pas comme moi-même.
Oui, je pense qu'il y en avait parlé au congrès de la ménopause. Je l'ai regardé. Je n'ai pas été à Orlando, mais j'ai tout écouté le congrès après. Puis c'est ça, il a dit « I don't feel like myself ». C'est ça, c'était…
OK. Bon, c'est intéressant. Merci pour cette information. C'est bien que, espérons qu'il y aura des médicaments qui seront efficaces.
Ouais, c'est sûr que là, présentement, ceux qui s'en viennent, c'est lié aussi avec les bouffées de chaleur. Mais je pense qu'éventuellement, il va y avoir plus de compréhension sur les troubles de sommeil. Ouais. C'est sûr qu'il y a des changements aussi au niveau du cycle circadien. Il y a des changements au niveau des phases de sommeil. Il y a des changements au niveau aussi de la mélatonine qui diminue. Ouais. Mais il y a aussi comme un pattern ou un portrait qui est différent en périménopause, ménopause.
Oui. Et c'est les sensations, je n'ai jamais eu cette expérience avant. J'étais réveillée, mais pas vraiment, pas juste réveillée, mais comme si quelqu'un m'a branchée et j'ai eu de l'électricité à travers le corps. C'était incroyable, incroyable. Bon,
ouais.
J'arrête parce qu'on sera là pendant des jours si je continue à me plaigner. Alors, quand on ne dort pas, il n'y a rien
qui va. Ça affecte beaucoup de choses, parce que ça va affecter le... Ça peut affecter le brouillard cérébral, ça peut affecter le poids, ça peut affecter l'humeur, ça peut affecter beaucoup,
Tout. Alors, est-ce que... Alors, quand vous avez une patiente et qu'il y a plein de symptômes ou elle est peut-être à l'âge de périménopause, est-ce que vous abordez le sommeil premièrement? Est-ce qu'il y a généralement des symptômes que vous allez adresser en premier?
Honnêtement, je fais le tour au complet parce que quand j'ai une patiente qui serait dans l'âge de la périménopause, ou même, fin trentaine, ces choses-là, mon questionnaire inclut tout le temps, okay, est-ce que les menstruations, l'abondance, la régularité, parce que souvent, il peut y avoir des menstruations abondantes, aussi, tu sais, comme je disais, les symptômes prémenstruels. Moi, je fais tout aussi les symptômes ménopausiques, mais je passe à travers aussi les bouffées de chaleur, le sommeil, le brouillard cérébral, les douleurs musculo-squelettiques ou douleurs articulaires, la libido. C'est sûr que les symptômes, je les demande quand même, les symptômes génito-urinaires sont souvent un petit peu plus tard, mais souvent, il y a des patientes qui vont avoir des démangeaisons vulvaires, de la sécheresse vulvaire. Souvent, ils vont utiliser, ils me disent, j'utilise les mêmes produits, ça fait des années, mais on sait que la protection au niveau de la peau change et que la peau devient plus sensible. Donc, il faut vraiment faire attention aux produits qui sont utilisés. Puis souvent, il faut que je fasse de l'enseignement à niveau aussi de ce qu'on appelle l'hygiène vulvaire, à éviter les irritants, ces choses-là. Donc, moi, je fais vraiment l'ensemble de tout parce que aussi, ça me donne une idée comment pouvoir aider la patiente. Elle a-tu besoin de contraception, pas de contraception? Parce que ce sont tous des informations qui vont m'aider à savoir quoi faire, puis aussi l'impact. Puis des fois, il faut que je leur demande, OK, si... Parce que des fois, on peut trouver un traitement qui traite beaucoup de symptômes, puis des fois, ben il faut choisir un petit peu le pire. Donc, des fois, je demande, OK, c'est quoi qui est le pire? C'est quoi qui vous incommode le plus? Surtout si j'ai des patientes qui ont des symptômes prémenstruels importants, mais qui ont un petit peu de symptômes ménopausiques, parce que le traitement est différent. Si on veut traiter les symptômes prémenstruels importants, j'ai des patientes qu'il faut stabiliser les hormones à ce moment-là. C'est pas nécessairement d'en donner plus, mais de stabiliser.
Oui.
Si j'ai une patiente qui démontre plus de symptômes ménopausiques liés à la baisse d'estrogène, ben là, à ce moment-là, il faut que je le supplémente plus que stabiliser.
Oui.
Il y a beaucoup de choses à considérer. Fait que moi, je fais vraiment le tour de tout, là.
Et c'est tellement important parce que quand une patiente se présente, c'est fort probable qu'elle ne se rende pas compte que
il
y a tellement de symptômes qui sont liés justement à les hormones qui fluctuent énormément. Et si le docteur ne demande pas, on ne sait pas leur dire.
Oui, parce que souvent, ils pensent seulement aux bouffées de chaleur, mais ils ne pensent pas que tout le reste, même quand ils sont plus vieux, les symptômes urinaires, l'urgence, les infections urinaires à répétition, ça peut être lié à des syndromes génito-urinaires, changement de bactéries au niveau du vagin qui favorise les infections urinaires. Donc, souvent, ils n'ont pas notion de tout ça, donc il faut vraiment faire le tour. Puis, c'est beaucoup d'enseignement, donc moi, c'est sûr que je travaille beaucoup en privé maintenant. L'avantage, c'est que j'ai le temps.
Justement, vous demander,
j'ai le temps d'enseigner.
Avec Dr. Karen, c'est une heure,
puis je pourrais faire deux. Des fois, il faut que je m'arrête parce que, écoute, si tu veux parler de tout ça, de l'enseignement, pourquoi un traitement plus que l'autre, plus en plus, on voudrait parler des habitudes de vie, c'est quoi qui est recommandé comme diète, exercice. Écoute, je pourrais être là 2 heures de temps. Des fois, il faut que je sois obligée de m'arrêter puis de continuer à une autre visite. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'enseignement, mais je pense que c'est important. Je donne aussi des liens. J'ai comme une petite liste de liens de sites Internet avec des informations fiables, basées sur la science. Je dirais là que je peux donner aux patientes où elles peuvent avoir de l'information.
Oui.
Donc, je donne beaucoup de liens comme ça pour qu'elles puissent au moins avoir un endroit où référer si elles avaient des questions entre-temps.
Ouais. Ouais. Et s'éduquer un petit peu pour pouvoir demander...
Oui, parce que malheureusement, il y a énormément de mésinformations sur les réseaux sociaux. parce qu'eux, ils ont le marketing et ils ont l'argent pour promouvoir ça. Nous, la plupart des médecins, il y a certains médecins qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, là, mais je veux dire, on n'a pas tendance à se mettre en promotion et à expliquer tout ça sur les réseaux sociaux, mais toutes les gimmicks un peu d'argent derrière.
Mais c'est justement ça, c'est les gimmicks et les clickbait qui...
Oui, puis c'est dommage parce que les patients ont de la misère à oui, avoir accès à des cliniques.
Spécialement
donc,
si c'est un
docteur.
Aller.
Ah oui, ben docteur, c'est ça. Des fois, c'est pas des docteurs en médecine. Des fois, c'est des docteurs en d'autres choses.
Oui, mais même c'est souvent
oui.
C'est des docteurs
oui,
en médecine.
Oui, même des fois. Oh, oui, je le sais. Ah oh, non, je le sais. J'en connais. Pour ça que je donne même certains liens sur Instagram, ces choses-là, de médecins que je sais, qui suivent les données, les recommandations. Oui, parce que c'est facile de s'y perdre facilement. Là.
Exactement, exactement. Et ça, c'est une grande question, mais juste peut-être qu'on peut discuter juste vite fait. Pouvoir donner le type de support que vous donnez, de passer une heure avec une patiente, est-ce que ça sera possible un jour dans notre système public? Pensez-vous, est-ce que...
Oh, pas tout de suite.
c'est
il y a des
vraiment...
cliniques, il y a de plus en plus de cliniques de ménopause qui s'ouvrent. Puis il y a certaines provinces qui ont maintenant des nouveaux codes de facturation qui donnent vraiment plus de temps pour ces cas-là. Parce que c'est une des autres choses, je veux dire, ceux qui travaillent au public, prendre une heure qu'une patiente, souvent, elles vont le faire pareil, mais je veux dire, financièrement, ils sont pas payés. Je veux dire, ils sont payés le même prix que s'ils voyaient une patiente en 15 minutes, puis certains collègues, c'est ça qu'ils font en 15 minutes, mais on n'est pas là pour la paye. La preuve, c'est qu'ils vont le faire pareil, même si ça prend une heure.
Mais
il y a de plus en plus de provinces qui commencent à donner des codes pour ça, donc pour... favoriser le fait qu'on prenne notre temps. Mais le problème actuellement, c'est la main-d'œuvre. Je veux dire, c'est pareil partout. Là. Je veux dire, on entend ça au Québec, c'est pareil au Nouveau-Brunswick, c'est pareil dans toutes les provinces. Il manque de médecins pour avoir accès. Et malheureusement, souvent, ménopause égale pas cancer, égale pas... Donc, c'est pas vu comme quelque chose d'urgent quand il faut faire trier les consultations qui viennent. Donc, des fois, ils attendent longtemps. Puis c'est pour ça que souvent, ils vont se ramasser à des cliniques qui ne font pas nécessairement ce qui est recommandé et qui demandent beaucoup d'argent aux patientes pour des choses non nécessaires. J'ai vu des patientes qui ont dépensé des 2-3 000 piastres à certaines cliniques, puis j'étais comme, c'est tellement pas, on n'a pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. C'est un peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez essayer de trouver? Mais il y a de plus en plus de places qui ouvrent des cliniques de ménopause, mais le problème, c'est qu'il faut avoir les médecins pour être capable de remplir ces cliniques-là. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce domaine-là. Il y en a beaucoup qui vont trouver ça encore compliqué, même si on essaie de faire de plus en plus de webinaires, il y a des congrès, mais je veux dire, je peux pas aller chercher les médecins non intéressés par la main et les asseoir devant une
et leur forcer.
Parce que souvent, ce sont les mêmes qui sont là. Je veux dire, c'est ça qui est décevant. Parce que des fois, ils réfèrent pas ou ce que je trouve des fois encore plus plate, c'est qu'ils donnent la mauvaise information aux patientes, des choses que peut-être on disait il y a 15 ans que maintenant on sait ne sont plus vraies. C'est excessivement difficile de renverser parfois quelque chose qu'un médecin de famille vous a dit. On va dire aux patientes pendant 15 ans, quand tu leur dis non, les études ont démontré que ce n'est pas vrai, ça c'était dans le temps, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de patientes qui perdent la chance d'avoir un traitement par peur de choses qui ne sont plus vraies, qui ont été prouvées fausses.
Nous aussi, on est souvent contactés par des patients qui... Et leur docteur leur a dit non, on ne peut pas, c'est pas, il y a un problème, c'est pas. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont du mal à trouver un médecin justement qui serait d'accord et qui connaît les recommandations courantes, quoi.
C'est frustrant. Puis ça, c'est aussi un problème qu'il y a eu en 2002, l'étude de WHI. Mais il y a eu comme pendant une dizaine d'années après ça, même avant, je vous dirais, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement sur la ménopause, même dans les écoles de médecine, même si tu faisais une spécialité en gynécologie. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignement sur la périménopause, ménopause. Ça a été encore pire après cette étude-là. Donc, il y a toute une cohorte de médecins qui n'ont pas eu d'enseignement. Puis, il y a une cohorte de médecins qui ont arrêté totalement en 2002 puis qui n'ont jamais repris ou qui n'ont pas suivi, je dirais, les recommandations. Donc, on est un peu dans un vide présentement de médecins. Ça commence à s'améliorer, comme je vous dirais. Juste le Congrès canadien de la ménopause, mon Dieu, on est passé de peut-être 200 inscriptions et le Congrès cette année, on a eu 600 parce qu'on est obligé parce qu'on n'avait plus de place. Il a fallu arrêter les inscriptions. Même, on était encore dans la phase de pré-inscription. Il a fallu arrêter parce que c'était plein. Donc, on prévoit peut-être le prochain congrès d'en avoir 1000. Fait qu'on voit qu'il y a une recrudescence d'intérêt des médecins, des infirmières praticiennes de se mettre au courant. Puis ça, c'est pas juste ici. Même le congrès américain, c'est toujours sold out. Donc, ça commence à être plus intéressant. Mais on a eu quand même une grosse période que les médecins ne savaient pas du tout. Là.
Mais maintenant, c'est que leurs patients demandent.
Oui, parce qu'on a une grosse cohorte de patientes qui sont dans l'âge de 40-50 ans. Oui.
Justement, alors on parle un petit peu, c'est vraiment, il y a des mythes qui persistent. Et est-ce qu'il y a un mythe le plus grand que vous devez déconstruire auprès de vos patientes normalement?
Je veux des prises de sang pour voir mes hormones. Malheureusement, déjà, en périménopause, ça fluctue tellement énormément que c'est absolument pas représentatif.
Oui.
Et même en ménopause, c'est pas d'après le niveau hormonal qu'on traite les patientes parce que le niveau hormonal n'est pas très bon pour vraiment comprendre ce qui se passe chez une patiente. Le niveau hormonal peut varier. Une patiente peut avoir le même niveau hormonal qu'une autre patiente et une patiente aura des symptômes horribles, l'autre patiente va être tout à fait correcte. Donc, c'est pas... quand on traite les patientes, c'est pas pour corriger un niveau hormonal parce qu'il n'y a pas de table de données qui nous disent « Oh, les patientes devraient en telle valeur, ça n'existe pas. » Donc, souvent, je leur explique que le niveau hormonal ne m'aidera absolument pas à savoir comment ou à savoir la dose. Il y a certaines indications pour les faire, donc les patientes en bas de 40 ans ou si on traite la patiente à aucun soulagement avec des doses qu'on considère élevées, des fois, ça vaut la peine de les faire. Mais il faut savoir que quand on traite les patientes, les niveaux hormonaux, si elles sont traitées par la bouche, c'est encore moins représentatif parce qu'il y a beaucoup d'estrogène qui est transformé dans le foie à autre sorte d'estrogène qui n'est pas testé dans le présentement par les prises de sang. Donc, et même quand c'est par la peau, ça varie quand vous prenez les transdermiques, ça varie avec le type de peau, le stress, l'alcool, l'anxiété. Mais c'est vraiment seulement moi, je veux savoir mes hormones, pour savoir si je suis ménopausée ou où je suis, ou quand je serai ménopausée et quoi faire, comment me traiter. Puis je dis, c'est absolument pas comme ça. Mais malheureusement, il y a des cliniques qui font faire des prises de sang qui coûtent 1 200 $ et plus. Souvent, malheureusement, quand ils me donnent leur paquet, je dis, je peux déjà tout vous dire à peu près c'est quoi les résultats. J'ai vraiment pas besoin de prises de sang. Et c'est pas ça qui va m'aider.
Ou les tests d'urine, il y a ça aussi.
Urine, ou une fois j'avais test capillaire. Je dis, c'est même... Il n'y a aucune donnée scientifique qui prouve que ça, c'est représentatif. Mais c'est souvent la mauvaise conception, le mythe qu'il faut tester nos hormones. Je dis, je peux vous tester une hormone, je vais vous tester la thyroïde parce que oui, des fois, ça peut être lié à des symptômes qui peuvent mimer un peu la ménopause et que ça, c'est important de doser. Mais les autres hormones, je vous leur dis tout le temps, gardez votre argent, voyagez avec ça à la place et on va être capable de vous aider sans devoir vous tester les hormones, là. À moins que j'ai une indication, comme j'ai dit. Mais c'est le mythe le plus grand. Ou l'autre mythe que je vois souvent, c'est... ça, c'est un peu créé à cause des réseaux sociaux, la pilule magique ou le traitement magique qui va tout régler les symptômes, qui va fonctionner pour tout le monde. Puis je dis, ça n'existe pas. Puis honnêtement, si ça existait, je serais la première à vous en parler.
Ah oui, exactement.
Si j'avais quelque chose qui aiderait tout le monde à ce point-là, ça n'existe pas. Je dis, chaque patiente est tellement différente avec ses risques, son histoire personnelle, ses symptômes. On peut pas, c'est pas vrai de dire qu'il y a un traitement. Ce qui a fonctionné pour votre soeur ou votre voisine, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est adéquat ou sécuritaire pour vous ou que ça va fonctionner. Et c'est souvent un mythe aussi là, que fit for all, qu'il y a un médicament qui va traiter tout le monde. Moi, je leur dis souvent, je peux avoir 5 patientes en avant-midi, il y en a, les 5 vont sortir avec quelque chose de différent. Des fois, ça dépend de l'évaluation et de leurs besoins. Ça, c'est l'autre mythe aussi, que tout le monde peut être traité de la même façon.
Oui, ou devrait prendre la même chose.
Prendre la même chose. Et c'est... ça, c'est un autre mythe. Okay. Ouais. Je dirais que c'est les deux plus gros mythes qu'on voit.
Pour les femmes qui n'ont pas l'opportunité de voir un expert comme vous, qu'est-ce que vous leur conseilleriez, je ne peux pas dire ce mot, afin de discuter leurs symptômes de périménopause et de les faire traiter? Parce que souvent, elles se présentent et leur docteur, vous êtes stressée, c'est ça, ou vous avez juste besoin de faire. Et c'est parfois difficile d'être entendue, quoi.
Oh, je le sais. Moi, ce que je des fois, je fais des séances, des fois d'information pour le public. Puis ce que je leur dis souvent, c'est. Puis je sais qu'il existe des choses en ligne maintenant qu'on peut le faire, sinon juste sur un papier ordinaire, mais faire un calendrier un peu sur 2-3 mois de, surtout si on est encore menstrué, leur menstruation, quand ils sont menstrués, l'abondance, mais aussi les symptômes. Les symptômes qu'ils présentent, la sévérité, l'impact. Parce que nous, quand si on a ça, je sais qu'il existe des choses même en ligne à ce temps, on peut regarder, OK, est-ce que ça semble être prémenstruel ou cyclique ou si c'est plus constant. Donc, ça nous aide aussi à voir, OK, les menstruations, abondance, pas abondance, c'est quelque chose à traiter, à investiguer. Donc, ça permet un peu d'avoir une meilleure idée de la fréquence des symptômes, mais aussi du pattern, je dirais, là, de savoir si c'est cyclique, pas cyclique, parce que ça, comme je disais, ça change la donne pour le traitement, puis en même temps, ça permet de voir l'ensemble des symptômes. Je dirais, pas juste marquer vos bouffées de chaleur, mais marquer si vous vous sentez pas vous-même, si vous êtes plus irritable, si vous avez des problèmes d'une humeur plus dépressive, d'anxiété, des douleurs musculaires. C'est vraiment de tout écrire. C'est mieux d'en écrire plus que moins. Puis à ce moment-là, ça nous donne un peu une idée de l'étendue des symptômes puis de ce qu'on peut faire pour aider. Ouais.
Je pense aussi, en général, on a la tendance de pas dire je sais pas, qu'on dit pas la vérité, mais on ne dit pas en réalité ce qui se passe. On dit j'ai des problèmes avec le sommeil ou je peux pas dormir. Mais on doit, je pense qu'aussi on doit donner le docteur plus d'informations et leur dire
détailler,
ça ne va pas avec mon mari à cause, avec les enfants, j'ai du mal à travailler. C'est vraiment, faut dire plus que je dors pas.
Parce que c'est ça que moi, s'ils me disent ça, je vais demander, OK, est-ce que vous êtes capable de vous endormir ou c'est plutôt que vous tombez endormi, mais que vous vous réveillez souvent? Mais c'est vrai qu'il y a certains médecins qui connaissent cette fois la différence avec ce qu'on fait. Plus qu'on écrit, mieux que ça va. Mais moi, ça serait vraiment d'écrire, d'écrire aussi l'impact que ça fait. Je suis pas capable d'aller travailler ou ces choses-là, c'est important de l'écrire parce que quand on vient, comme je disais, avoir beaucoup de symptômes, des fois, c'est faut commencer à quelque part. Je veux dire, on va commencer avec ce qui semble avoir le plus d'impact. Mais c'est ça. C'est vraiment d'écrire les symptômes, tout ce qui vient, la sévérité, l'impact sur votre vie, puis avec le cycle menstruel, parce que ça peut aider à savoir un petit peu qu'est-ce que faut que je stabilise les hormones, ou faut que je supplémente les hormones. Puis des fois, on fait un peu des deux. Donc, il y a différentes combinaisons qu'on peut faire.
Vous êtes certifié par la Menopause Society. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Société canadienne de ménopause. Et vous avez beaucoup sur votre assiette. Je sais très bien que vous êtes très occupée. Ouais. Pourquoi est-ce que ce travail est important pour vous?
Moi, j'aime faire partie de la Société de ménopause canadienne parce que je me rends compte que plus ça va, plus j'aime pouvoir avoir le temps d'expliquer, que ce soit aux patientes ou aux médecins qui veulent avoir de l'information. Et c'est ce qu'on fait beaucoup avec la Société de ménopause canadienne. C'est beaucoup, on essaie d'amener de l'information, de faire des cours en ligne, de mettre des informations sur notre site Internet, pas juste pour les médecins, mais pour les patientes aussi, que ce soit des choses qui sont démontrées. Donc, moi, j'aime beaucoup ça pour le côté enseignement qu'on peut faire. Et aussi, j'apprends beaucoup parce que c'est certain, OK, j'ai fait je suis certifiée de la ménopause, la Société de ménopause. J'ai fait, il y a un cours aussi avec la Société internationale de ménopause qui s'appelle IMPART, qui même peut être fait gratuitement, autrement dit, par les médecins qui peuvent aller sur ce cours-là. Il y a des cours de base, puis il y a des cours aussi plus avancés, sur des sujets un peu plus avancés. La SOJC, j'ai fait leur cours aussi. Wow. Il y a un cours pour la ménopause. Donc, on peut avoir quand même, SOJC, il faut quand même payer la société qui s'est rendue très dispendieuse pour eux. Mais là, IMPART, avec l'International Menopause Society, eux, on peut quand même le faire. Je pense que ça peut même être gratuitement maintenant. Donc, c'est toutes des choses que moi, j'ai faites pour essayer d'apprendre le plus. Des fois, c'est aussi d'apprendre à comment le dire aux patientes, comment l'expliquer, que ce soit plus facile à eux pour comprendre. Puis moi, je trouve ça important d'enseignement, c'est ça, de diffuser le plus d'enseignement que je peux. Et ça m'aide. Comme là, il y avoir des... après Noël, la Société canadienne de ménopause, on va faire comme une série sur 4 mois. Parce qu'on a aussi la demande de faire des choses un petit peu plus pointues pour ceux qui ont déjà les informations générales, parce qu'on a déjà un cours en ligne qu'on appelle Ménopause 101 ou... je ne me rappelle plus du nom en français, mais là, en français aussi, pour les choses générales, c'est sur 6 ou 7 modules. Oui. Mais on a été demandé d'avoir des sujets des fois un petit peu plus difficiles. Des fois, pour les médecins qui voient beaucoup de ménopause, des fois, il y a des cas un petit peu plus difficiles. Puis à partir de janvier, on va commencer à faire des sessions une fois par mois où on va faire un peu d'enseignement, puis après ça, discuter de certains cas. Donc, pour un peu aider à supplémenter ces demandes-là qu'on a eues, là, qu'on a fait comme un genre des petits groupes pendant le congrès au mois de septembre, puis c'est une chose qui a été souvent demandée. Fait qu'on essaie de répondre à la demande des médecins, du public, mais moi, ce que j'aime, c'est d'être capable de m'impliquer pour faire de l'enseignement, que ce soit aux patients ou aux médecins ou aux infirmières praticiennes ou tous ceux qui donnent des soins là, en ménopause.
Merci pour vos efforts, parce que... Même quand on est passionné, ça prend du temps, quoi.
Oui, puis c'est pas la seule chose que je fais non plus.
Exactement. Non, je suis très au courant que vous avez beaucoup de travail, quoi. On voulait vous demander une question un peu fantastique, quoi. Fantasy, si quelqu'un disait « j'ai 50 millions de dollars pour la recherche sur la santé des femmes, où est-ce que je devrais investir cet argent? Quelles seraient vos recommandations? »
La périménopause, parce que côté ménopause, on s'en vient bien. On a beaucoup de traitements par Santé Canada que le monde appelle bioidentique, même si ce n'est pas un terme médical. Maintenant, on est quand même bien couvert. Puis il y a beaucoup d'études aussi dans le domaine, comme des niveaux composés non hormonaux pour les bouffées de chaleur, ces choses-là. Mais la périménopause, on n'a pas de médicaments ou de traitements, je ne dirais pas nécessairement juste des médicaments, mais de traitements qui est dédié seulement à la périménopause, vraiment. On combine, je dirais, on fait des combinaisons de traitements des fois qu'on voit en ménopause, pour des patientes en phase de reproduction, puis connaissant ce qu'on veut atteindre, on sait qu'est-ce qu'on peut essayer, mais on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'études sur des traitements en périménopause. C'est dû un peu essai-erreur de notre part, sachant qu'est-ce que le traitement qu'on veut utiliser fait ou les avantages et ce que la patiente présente. Mais oui, puis on en parle à chaque congrès que c'est vraiment l'enfant pauvre là, de la période chez la femme. Là, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'études à faire. C'est pas, comme je disais, c'est pas juste les bouffées de chaleur, c'est pas juste donc tout ce qui est pour tous les autres symptômes, on n'a pas beaucoup d'études côté périménopause. Puis ça, je pense que ça va venir parce qu'on en parle de plus en plus. Et si on peut avoir les fonds, il va y avoir des études, là.
Oui, OK. Bon, ben, on va mettre ce clip sur les réseaux sociaux Noël, on ne sait jamais qui écoute, quoi. espérons qu'on aura l'argent pour les recherches nécessaires.
Parce que même les médicaments, comme les nouveaux médicaments pour les bouffées de chaleur, ça a été étudié, l'efficacité sur, je dirais, ménopause et périménopause tardive, mais certaines personnes entre nous l'utilisent, ben, des fois on l'utilise quand on pense que c'est indiqué chez des patientes qui sont plutôt en périménopause, mais réellement, la plupart des études, quand ils les font, ça va être les périménopauses tardives et plus, puis est-ce que c'est aussi efficace pour les patientes en périménopause précoce? Souvent, ils feront pas l'étude jusque-là, ils vont plutôt faire après, donc c'est juste même pour des médicaments qui sont présentement sortis, c'est quoi l'effet en périménopause? Je veux dire, ça serait, souvent c'est pas étudié, ça fait que c'est off-label, comme on dit, on les utilise parce qu'on on pense vraiment que ça va être efficace, mais il n'y a pas de données autant que chez les patientes qui sont en ménopause pour certains produits.
Ça nécessiterait un docteur qui a la confiance et l'expérience pour pouvoir...
C'est aussi
un petit peu le problème, quoi, parce que...
Parce que souvent, comme la Société de ménopause canadienne, il y a un groupe Facebook, puis tout notre groupe, on le regarde souvent, puis on essaie de répondre, mais tu vois, des fois, c'est ça, la périménopause, c'est... Parce que des fois, c'est un mix d'un peu de tout que les patientes présentent, donc là, c'est « OK, qu'est-ce que je fais? La patiente a ça, mais aussi telle chose, qu'est-ce que je devrais donner? » Tu vois qu'ils sont... Parce qu'on n'a pas de données claires sur qu'est-ce qui devrait être fait. Il n'y a pas de recommandations claires, même sur la périménopause, qu'est-ce qui peut être... Les recommandations, il n'y en a pas vraiment déjà. Donc, ils sont un peu, des fois, mêlés sur qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas. Fait que c'est ça. Honnêtement, il faudrait même des recommandations en périménopause. On a des recommandations de ménopause, mais il n'y a aucune recommandation sur la périménopause.
Complètement d'accord. Et en effet, c'est pour ça, quand on a commencé ce qu'on fait maintenant, on a décidé que ça sera « This is perimenopause ».
Le sujet.
Parce que c'est vraiment... même quand on parle de périménopause, c'est toujours mêlé avec le tout et, on rate souvent l'expérience que vivent beaucoup de femmes pendant cette période qui est vraiment, vraiment troublant.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'on dit toujours, souvent on voit ça dans les écrits, ils disent... on prépare bien les jeunes filles à leur première menstruation, mais on prépare vraiment pas bien les femmes à leur arrêt de menstruation. Et c'est aussi, sinon plus, difficile, je vous dirais. Probablement plus.
Absolument.
J'aurais tendance à dire plus.
Oui, exactement. Moi aussi. On va peut-être finir avec la question qu'on demande tous nos invités. Quel est le message essentiel que vous souhaitez que toutes les femmes reçoivent à propos de la périménopause?
Je vais faire un saut avant. J'aimerais ça qu'il y aurait assez de médecins connaissants. Ça n'a pas besoin d'être trop spécialisé, mais connaissant un peu des symptômes, des traitements pour pouvoir au moins commencer à aider leurs patientes. Je voudrais, en passant, je vais faire peut-être une plug, là, mais pour les médecins, les médecins qui écoutent peut-être, il y a le site internet mq6.com.ca, je ne me rappelle plus. C'est français en anglais, puis je dis toujours quand je présente à des médecins qu'il y a une portion où vous répondez à 6 questions importantes quand on fait de la ménopause et il va vous sortir un plan de traitement pour commencer avec des patientes, même avec une feuille qui va vous aider à savoir quoi dire aux patientes comme effet secondaire, etc. Donc, je me dis toujours, si vous faites ça, vous avez au moins, vous pouvez commencer quelque chose en attendant que la patiente soit vue, mais ayant pas ce souhait-là de réaliser présentement, je vous dirais, ça serait de faire attention à la mise d'information parce que naturel n'égale pas sécuritaire.
Oh là là.
Et même souvent, ce sont des produits, pas du tout. C'est souvent des produits qui sont hors législation de Santé Canada, donc qui n'ont pas besoin d'avoir des études vraiment pour l'efficacité. Ils peuvent faire n'importe quelle étude qui montre que c'est efficace, puis ça va être ça qu'ils vont mettre. Il n'y a pas besoin de faire des études sur les effets secondaires. Ils n'ont pas besoin de rapporter s'il y a des problèmes majeurs avec leurs médicaments. Ils n'ont pas besoin de mettre d'avis d'information. Ça laisse présumer que c'est plus naturel, plus sécuritaire, mais c'est totalement pas le cas. Mm-hmm. Et c'est, faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet et pas juste se fier, comme vous dites, pas parce qu'ils disent docteur que c'est nécessairement. Des fois, c'est même pas des docteurs en médecine en plus. Mm-hmm. Des fois, ça l'est, mais mm-hmm. des fois, ça l'est même pas. Mm-hmm. Donc, faut vraiment faire attention et essayer d'aller voir, peut-être vérifier avec des sociétés médicales pour être certain. Le dernier congrès qu'il y a eu la ménopause américaine, il y avait, je pense qu'ils ont dit, c'est pas 5 ou 6 fois que le turmeric, ça donne des toxicités hépatiques parce que c'est un produit que maintenant tout le monde pense qu'il devrait prendre pour prévenir mm-hmm. le cancer ou pour les douleurs articulaires. Puis ça a été démontré que ça donne des impacts ou des toxicités hépatiques. Donc, c'est juste pour prouver que faut faire attention, surtout avec tout ce qui est côté naturel. Parce que souvent, sur les médias sociaux, ce qu'on avance comme traitement, c'est souvent des choses qui ne sont pas légiférées, efficaces et sécuritaires. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, c'est la chose que je fais attention et que je demande aux patientes qu'est-ce qu'ils ont essayé, que ce soit sur les tablettes ou autres, parce que des fois, ça m'aide aussi à voir. Là, mais ouais, c'est une chose que je dis de faire attention aux patientes. Là.
C'est un très bon message. Et on va mettre le questionnaire MQ6 dans les show notes. Mm-hmm. Et peut-être si vous avez dit avant que vous donniez aux patients peut-être on va inclure bien sûr la Société Parce que canadienne de la ménopause, mais il y a peut-être d'autres liens que vous
Oui, il y en a beaucoup d'autres. Puis je peux vous envoyer, j'ai un petit papier que j'ai aussi pour les troubles du sommeil avec des sites qui peuvent aider. Ah, parce qu'un des premiers traitements pour les troubles du sommeil, c'est plus ce qu'on appelle le CBT, le Cognitive Behavioral Treatment. Puis on sait que c'est difficile d'avoir accès à des psychologues, mais il y a des sites Internet qui peuvent donner certains traitements en ligne et que les patientes peuvent essayer. Fait que je peux vous envoyer les liens que je donne aussi pour le sommeil. Parce que je donne ça aux patientes quand ils partent là, pour être sûr qu'ils ont au moins des choses de base à aller voir, à aller visiter pour avoir de l'information.
Oui. Et même, je pense que tout le monde pourrait profiter de cette information.
Ah oui, c'est sûr.
Avoir une hygiène par rapport à notre sommeil qui est... On peut tous travailler, quoi. C'est vraiment...
Oui. Regardez le téléphone avant de se coucher.
Exactement, exactement.
Oui.
Okay. Bon, ben, merci bien, Dr. Karen. C'est
plaisir.
Vraiment un plaisir. Et ça n'a pas été trop pénible pour moi de parler en français. Alors, merci pour l'opportunité. Et on pourra peut-être refaire ça une autre fois.
En autant que ce n'est pas en espagnol ou en genre que ça va bien aller. Français, anglais, ça va.
OK, super.
Merci.
Okay.
Thanks so much for listening to the show. If you like what you hear, please subscribe and write a review. So more women can find us and get a better understanding of what to expect in perimenopause.
This information is not intended as medical advice. The intent of this information is to provide the listener with knowledge to support more efficient and effective communication with their medical provider.